Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre présence. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à la BCU Fribourg à l'occasion de notre exposition sur la collection CH. Nous avons souhaité marquer spécialement la date du 23 avril, journée mondiale du livre, en organisant une conférence et une lecture sur la littérature suisse. La collection CH, c'est bien sûr la collection où dialoguent les différentes littératures de la Suisse. Un lieu d'échange qui permet aux lecteurs romans de découvrir des auteurs alémaniques ou italophones et réciproquement. Mais c'est aussi la collection des traducteurs. En parcourant la liste des titres parus dans la collection CH, on est frappé par le nombre d'écrivains suisses qui sont aussi des traducteurs. La traduction, une vertu cardinale en littérature, surtout dans un canton comme Fribourg, où il est souvent question de bilinguisme, mais peut-être pas assez de traduction. La traduction, c'est aussi accepter l'autre dans sa différence, tout en s'efforçant d'entendre et de restituer sa musique. Le 10 avril, Étienne Barillier nous a fait découvrir, sous la forme d'un dialogue avec Sylvie Jeanneret, le thème de la musique dans son œuvre romanesque, en particulier dans Le Chien Tristan, ainsi que son œuvre de traducteur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux traducteurs très actifs dans la collection CH, Marcel Schwander et Marion Graf. Née à Lenzstal, dans le canton de Glaris, Marcel Schwander vit aujourd'hui à Lausanne. Après des études universitaires en lettres et en sciences politiques à Berne et à Paris, il devient en 1958 rédacteur en chef de la Seeländer Volkszeitung à Vienne, avant d'entrer en 1968 au Tages-Anzeiger comme correspondant pour la Suisse romande basée à Lausanne. Journaliste, écrivain et traducteur, ce parfait bilingue a traduit en allemand de nombreux écrivains romans. Corinne Aby, Gaston Cherpillot, Jacques Chesser, Catherine Colomb, Georges Attas, Jean-Pierre Monnier, Amélie Plume, Alice Riva, etc. En novembre 1999, Marcel Schwander a reçu le prix de la Fondation Hörtl, qui a pour but d'encourager la bonne compréhension entre les régions linguistiques de la Suisse. Auteur d'une dizaine de traductions parues dans la collection CH, Marcel Schwander va nous livrer sous la forme d'une conférence ses impressions d'un traducteur de la littérature romande. Merci.
Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vais citer un fribourgeois, Bonsacte Reynold. J'ai lu plusieurs livres de lui, j'ai lu aussi son bouquin sur la question jurassienne, Destin du Jura, et ses mémoires, et d'autres livres que vous connaissez aussi. Et dans ses mémoires, il nous parle d'une discussion qu'il avait avec l'écrivain vaudois C.F. Ramu, qui n'aimait pas ses prénoms, c'est pour ça qu'on lit toujours seulement deux lettres. C.F., c'était Charles Ferdinand, il disait « j'aime pas, c'est pour les grands-ducs d'Autriche, mais pas pour un vaudois ». Et donc, ces deux hommes de lettres discutaient la question « comment est-ce qu'on fait la conquête du monde spirituel ?» Et Gonzague de Reynold dit « pour moi, c'est les cercles concentriques. Voici Crécier sur Morat, avec le château, et le district, le canton, la Suisse, l'Europe et le monde. C'est les cercles concentriques. Et Ramu répond, pour moi, c'est tout à fait différent. Je me vois dans un vignoble au-dessus du lac Léman, et je commence à creuser, et je creuse toujours plus profond, jusqu'à ce que j'arrive au milieu du monde, du savoir, au milieu de toutes choses. Et voilà les deux méthodes pour conquérir le monde de l'esprit, du savoir et de tout ça. Et j'ai essayé un peu les deux méthodes de Reynolds et Ramu, le vertical et l'horizontal, même, oui, quelquefois avec succès, quelquefois avec un peu moins de succès, mais je crois la traduction m'a ouvert beaucoup de portes aussi. Donc, d'après de Reynolds, je suis né, comme ça a été dit, dans un village industriel du pays de Glaris. Mon père était né dans le pays de Neuchâtel. La mère parlait le zurichois. Dans le village, on parlait le dialecte glaronnais qui se chante et qui ressemble, comme j'ai vu après beaucoup, aux Suédois. En Suédois, on dit « Vakerflika, jajelskadej » et le glaronnais, c'est de la même manière. « Ja, ja, de kukkelig, holtschult, et frasig, ful, um, feist, das utron, etc. » Et j'ai même retrouvé le même, la même musique dans la langue du Sri Lanka, la langue majoritaire. Et là, je me souviens, le matin, pour le petit déjeuner, j'ai dit « Là, c'est dans quel éden est ma tété ?» J'ai dit « Oui, c'est de nouveau du glaronnais. » Et « Dene ma tété » veut dire « Donne-moi du thé ». Donc, il y a une parenté avec le français entre toutes les langues indo-européennes. Et déjà enfant, j'ai entendu souvent parler russe. Il y avait des voisins qui étaient revenus du temps de Staline en Suisse. Et la grand-mère ne parlait que le russe. Elle parlait toujours le russe avec sa fille. Et pour moi, c'était un peu dans les oreilles aussi. Après, j'ai essayé d'apprendre un peu le russe et je sais... tout ce qu'il faut un peu, si on n'est pas spécialiste. Shiraka astrana maya ranaya maya. Donc ce n'est plus chanté comme il y a d'autres chansons en russe qui sonnent peut-être encore mieux. Et j'étais souvent dans une famille italienne pour manger la polenta. J'ai entendu parler l'italien et... c'est pour ça que je me suis intéressé un tout petit peu. Ma mère avait deux sœurs. L'une était mariée à Paris. Son mari, c'était mon parrain. Il s'appelait Marcel. C'est de lui que j'ai mon prénom. Et l'autre sœur était mariée en Alexandrie, en Égypte. Et elle venait avec sa famille, même pendant la guerre. Et toute la famille me parlait des Arabes et quand ils ouvraient leurs valises, c'était un peu tous les odeurs de l'Orient qui entraient dans notre petit salon glaronnais. Et ça me faisait rêver. Et tout ça, ça m'a réveillé un peu cet intérêt pour les langues et pour les gens qui les parlent. Et... après les études, j'ai enseigné dans le canton de Berne et c'était pour moi peut-être la langue la plus difficile à apprendre. J'ai appris le bernois, qui est assez différent du glaronnais, et je me suis fait un bernois un peu personnel. Disons, un vrai bernois qui est né dans les bernois, qui a une vraie tête bernois, etc., lui, quand il m'entend parler bernois, Il dit, ah, vous êtes de Berne, vous êtes de quelle région? Vous êtes de l'Oberland, s'il vient du Midland. Et s'ils ont... Chacun le reconnaît comme bernois, mais il pense toujours, il ne peut pas venir de ma région, il est d'une autre région, donc je parle un bernois presque international aussi, comme le glaronnais. J'ai essayé d'aller vers les autres langues. J'ai d'abord à Bienne, j'ai pu étudier la cohabitation des langues, très paisible, ça marche bien. Depuis le 19e siècle, c'est les horlogers du Jura qui se sont établis à Bienne. Et ils ont reçu les mêmes droits comme cette majorité alémanique. Et oui, quelquefois on mélange un peu les deux langues, mais ça marche assez bien. Et j'ai aussi constaté dans le canton de Berne que ça marchait un tout petit peu moins bien, la cohabitation des langues. Et ça m'a intéressé. Je suis devenu journaliste, je suis allé souvent dans le Jura, j'ai parlé même avec les jurassiens, les séparatistes. C'est la Liberté qui a repris, je crois aussi, ce titre. Parce qu'à Berne, on avait l'impression que les jurassiens, surtout les séparatistes, c'était quelque chose comme le malheur dans l'étable, quand il y a des veaux à deux têtes. Alors un séparatiste, ça ressemblait donc à un veau à deux têtes ou quelque chose comme ça, et on ne le comprenait pas du tout. Et il y a un conseiller d'État qui m'a dit, ah, tu comprends rien du tout du problème jurassien, il faut savoir une chose, je vais te l'expliquer, tu vois. Les séparatistes, ils sont tous sous les manteaux du clergé. C'est des fanatiques catholiques et rien d'autre. Et pour Berne, à l'époque, c'était le problème. Quand le Jura était ce cadeau fait à la République de Berne en 1815... le mauvais Galta, comme on disait à Berne, là, c'était la première fois qu'il y avait des catholiques dans le canton, et il y avait au 19e siècle le Kulturkampf, là, le directeur des églises du canton de Berne a destitué 127 prêtres jurassiens. Et il a dû en chercher d'autres partout en Europe. Il en a trouvé, je crois, 45. Et beaucoup de jurassiens sont allés en France ou à la cachette. Ils ont fêté avec leur curé, leur vrai curé, la messe. Et à Berne, donc, on avait encore... De montant cette idée que c'était juste les catholiques, parce que leurs excellences de l'époque parlaient entre eux le français comme les nobles de Saint-Pétersbourg, comme on le voit dans Voïna et Mir de Tolstoï, La guerre et la paix, où il y a des pages entières en français. Parce qu'ils savaient que ses lecteurs savaient lire le français. Il change d'après la situation. Il écrit en russe, il écrit en français, etc. Et à Berne, c'était le catholicisme qui était nouveau. Dans le pays de Vaud, ils avaient employé cette méthode du plus. Ils disaient à la paroisse, vous pouvez rester... catholique, vous pouvez devenir protestant, vous avez le choix, vous êtes tout à fait libre. Et quand la paroisse votait en majorité pour le protestantisme, le bail disait, ça c'est bien fait, vous avez la liberté. Et s'il restait avec l'ancienne religion, alors il disait aussi, on vous a dit, vous avez la liberté, mais maintenant vous pouvez encore une fois voter, vous pouvez choisir. Et il pouvait choisir une deuxième fois, et même une troisième ou quatrième fois. Et quand ils arrivaient à la religion de leurs excellences, ils disaient, ah ça c'est bien, on l'a toujours pensé, maintenant vous êtes bien. Et ils ne pouvaient pas employer ce plus dans quelques districts, quelques bailliages, où il y avait ce changement de bailli, bernois, puis fribourgeois, estavayé, Échalon, oui. C'était Tcherlitz chez les bernois, Échalon, Tcherlitz. À Échalon, donc, il y a toujours eu des catholiques qui sont restés catholiques, etc. Et donc, quand ce conseiller d'État m'a expliqué le problème jurassien avec la religion, j'ai pensé, pour un bernois, il va vite en besogne, il a très bien compris, et parce qu'il n'y a qu'une centaine d'années, c'était encore la vérité. C'était tout à fait ça, c'était la religion qui faisait la différence. Mais au XXe siècle, c'était plus la religion, c'était le problème de la germanisation, de la défense de la langue française. Et c'était ça au début du nouveau problème jurassien qui a été résolu, mais seulement à moitié, disons. Et le gouvernement a organisé des votes un peu plus... C'était même plus méchant que les baillis de l'époque, parce qu'ils sont arrivés à garder presque la moitié du Jura. Et ils ont triché, ils ont payé. Dans le Lofonais, le district de langue allemande, ils ont payé, je ne me souviens plus de la somme, mais c'est quand même autour d'une centaine de francs par votant pour qu'ils aient leur vote pour le canton de Berne. Et il y avait une plainte et j'étais au tribunal fédéral qui a constaté ça, c'est vraiment, ça ne va pas du tout, on ne peut pas tricher de cette manière-là. Mais ils n'ont vraiment pas compris, et moi j'étais étonné. Et après, quand j'avais changé au Tagesanzeiger de Zurich, et j'ai pu aller comme premier rédacteur en Suisse romande à Lausanne, et là j'ai pu continuer à étudier le problème jurassien, et j'ai étudié un peu l'histoire des cantons et l'histoire des relations entre Suisse allemande et Suisse romande, et j'ai pu aller à l'étranger, j'ai suivi le référendum dans la province du Québec, c'était en 80, c'était en 80 le premier, et j'ai tout suivi, et après j'ai traversé tout le pays, et plus tard, je suis allé en Louisiane pour voir ce qui restait de la langue française dans cette ancienne province, colonie française qui allait du Golfe, du Mexique jusqu'au Canada. C'était immense, c'était plus grand que les États-Unis de l'époque. Et Bonaparte, premier consul, il pensait plutôt... vers la Sibérie et pas vers l'Ouest. Il était intéressé de l'autre direction. Il a vendu cette très grande Louisiane qui parlait français aux États-Unis pour 25 millions de dollars. C'est, C'est ridicule. Une petite guerre pour les États-Unis leur coûte beaucoup plus que ce qu'ils ont payé pour toute la Grande Louisiane. Et, mais s'ils n'avaient pas vendu la Louisiane, il y aurait tout à fait autre, un autre ordre dans le monde. Il n'y aurait pas une superpuissance, une seule, ça serait impossible, mais on peut toujours refaire l'histoire, elle est quand même ce qu'elle est. Donc, j'ai étudié la relation des langues en Inde, j'ai traversé le sous-continent, là, un peu en long et en large aussi, et là, il y a il y a au nord, il y a des langues indo-européennes, au sud, c'est des langues de l'Océanie qui sont tout à fait différentes. Mais ce que j'ai constaté, ce qui est intéressant, les frontières des États de l'Union indienne actuelle ne correspondent pas du tout ou très rarement aux anciennes frontières. Il y avait d'abord British India, dirigé directement depuis Londres, et puis il y avait autour de 500 petits ou grands états de Raja et de Maharaja qui avaient leurs lois qui étaient tout à fait différentes, qui avaient plus ou moins de droits d'après le divide et impera que les Anglais connaissaient très bien. Et après la libération, comme ils disent en Inde, là, se sont formés d'autres États. Et ce qui est intéressant pour la question linguistique, ces nouveaux États se sont formés d'après les langues, d'après les dialectes même. Et on m'a expliqué, et j'ai aussi lu des bouquins là-dessus, que Gandhi avait parlé à la radio. La radio, c'était le nouveau moyen de propagande. Et avec la radio, il a atteint les gens qui parlaient la langue qu'il employait, et aussi Nehru plus tard. Et c'est donc la radio qui a fait les frontières des langues, être les nouvelles frontières politiques. Et on a dit, et à juste titre, en Suisse romande, il y a eu un bouquin avec le titre « La Suisse romande n'existe pas », après « La Romandie n'existe pas », c'est mon ami Pichard qui l'a employé, et il en parle de cette Romandie qui n'existe pas sur 200 pages. Alors, elle existe un tout petit peu, mais c'est la radio qui a mis les romans un peu ensemble, qui a créé un sentiment de Romandie. Donc, on peut comparer ce qui s'est fait en Inde avec ce qui se fait en Suisse. Mais je ne veux pas vous parler de tous mes voyages pour étudier cette question, mais je vais vous dire deux mots de la méthode Ramu pour connaître mon monde. Et c'est la traduction. Et c'est avec la traduction, vous allez au fond des choses. Et j'ai pensé comme Alice au Pays des Merveilles, dans une autre histoire, là, elle traverse le miroir, elle va dans un autre pays. Et en traduisant, j'ai quelquefois eu l'idée, maintenant tu traverses le miroir et tu es dans un autre pays, tu ouvres les yeux et tu sens des odeurs que tu ne connaissais pas et tu rencontres des mots qui sont comme des fleurs ou des plantes. Et donc, aller dans une autre langue, c'est un peu toujours un autre monde. Et le traducteur, il revient de cet autre monde pour le raconter. Et chaque langue est un monde en soi. Et Martin Luther, qui a traduit la Bible, et en traduisant la Bible, il a créé la langue écrite allemande. Ça a été créé par le traducteur Luther. Alors il a dit, traduire, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Et il savait de quoi il parlait. Et il y a un philosophe allemand, Martin Heidegger, il a dit, seuls les problèmes des sciences exactes passent la barrière des langues, car là, où on, là, dans les sciences exactes, on ne traduit pas. On parle le même langage mathématique. Mais, a-t-il dit, poésie, philosophie, carrément intraduisible. Traduire de la littérature, c'est donc tenter l'impossible. Car, attention, le matériau des langues est très différent. Parfois, en travaillant tard la nuit jusqu'au matin, j'avais l'impression de refaire la tour Eiffel en bois ou en béton, parce que l'allemand est tout à fait différent. On n'a pas cette possibilité de l'élégance. Et ce n'est pas seulement le matériau qui est différent, c'est les possibilités des structures. Avec une langue, on peut construire d'une autre manière. Et cette idée m'est venue quand j'ai regardé mon fils qui, à l'époque, avait 5-6 ans. Il jouait avec des Lego. Alors moi, je pensais aux mécanos de ma jeunesse. Mécanos, là, il y a des vis, on tourne, oui, c'est tout. On peut construire des modèles, des machines et des grues pour soulever des poids. Et j'ai pensé, avec le Lego, tu ne peux pas faire ça. Tu peux pas. Et oui, il faut dire, je ne dis rien contre les Lego. C'est excellent. J'avais parlé, j'avais ce que je viens de vous dire. Je l'avais dit une fois, c'est pas à la radio ou à la télévision, et quelques jours plus tard, j'ai reçu une belle lettre, directeur général de Lego Suisse. Il m'a écrit, vous avez prétendu qu'on ne peut pas construire des grues avec les Lego. Nous préparons maintenant deux jeux avec lesquels on peut en construire. Mais même là, j'ai rien contre les Lego, mais même là, c'est tout à fait autre chose. Ça, c'est tout à fait spécial. C'est pensé pour la construction. Et on ne peut pas faire autre chose. Avec une grue faite de mécano, on pouvait faire après une maison, une machine, une locomotive, n'importe quoi. Vous voyez, avec un jeu, et les deux sont très valables, mais ils sont très différents. Les langues ont une architecture, un potentiel, des limites, et une traduction ne parvient pas toujours à concilier toutes les exigences. Il y a le sens, la signification, il y a la sonorité, il y a le rythme de la phrase, il y a l'étymologie. Alors, c'est généralement impossible de refaire tout, de traduire tout. Même si on chante quelques langues, on ne peut pas tout refaire. Et alors, les mots de la langue d'arrivée disent généralement qu'une partie. C'est un peu... si ça, c'est le mot que je traduis, et ça, c'est la traduction. Et vous voyez, il n'y a pas tout à fait la main sur la main. Vous ne trouvez pas tout, c'est impossible. Tant comme traducteur, vous avez le choix, vous devez trouver l'important. Vous prenez que ce qui est important, quelquefois un peu pars pro toto. Mais donc avec la langue d'arrivée, on n'a jamais tout, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'en italien, on dit traduttore traditore, le traducteur est un traître, et c'est un traître même contre sa volonté. On pourrait dire le traducteur est l'interprète. J'ai discuté hier avec une pianiste bien connue, et elle m'a dit, oui, traduire, c'est comme interpréter une pièce, parce que on a là les notes et il faut trouver ce qu'il y a derrière. Et il y a un pianiste où ça sonne bien, mais chacun trouve un peu ses possibilités, ce qui est important. Et ce qui est important aussi, vous avez un beau dessin de Albert Dürer, un cheval, un chevalier, et vous décalquez très docilement, vous faites attention, vous suivez toutes ces lignes, et quand vous voyez le résultat, vous voyez, c'est un cheval qui n'a pas de vie, c'est un chevalier qui est mort, il n'y a pas de tension, et c'est ça qui est souvent difficile, de montrer la tension qu'il y a, de refaire la tension dans une phrase. C'est pour ça que traduire, c'est un processus très créatif. C'est pas quelque chose comme une photo qui donne une partie de la vérité et qui peut être une œuvre d'art. Mais la traduction, c'est vraiment une nouvelle création, et c'est ce qu'on devrait savoir. Souvent, on publie des traductions de romans, etc. Je vois des annonces, il y a le nom de l'auteur, c'est un auteur russe, une autre fois c'est un auteur américain, et alors il y a le titre et le nom de l'auteur, mais il n'y a pas le nom du traducteur. Et alors on a l'impression que c'est un roman qui s'est traduit tout seul. Il a pensé, maintenant je vais une fois essayer de paraître en allemand. Et c'est pas si facile que ça. Mais j'ai vu dernièrement dans une publication d'une institution pour la cohésion confédérale, j'ai vu la... la photo d'un bouquin où c'était marqué fondu und rösti, ou fondu et rösti, et c'était marqué édité par la banque Fontobel à Zurich, et c'est tout, et c'était dans un bouquin qui parle de la traduction et de la cohésion confédérale. J'ai écrit à l'ENSPO, à cet ami de longue date, et je lui ai écrit, vous me montrez que ce bouquin a été publié, il y a donc un éditeur, mais il n'y a pas d'auteur. Jusqu'à maintenant, je savais qu'il y a des bouquins qui se traduisent tout seul, parce qu'on oublie le traducteur. Mais maintenant, vous me donnez la preuve que les bouquins peuvent s'écrire aussi tout seul. On peut passer du journaliste, de l'écrivain, pour faire des bouquins. Alors ça, c'est pas, disons, très croyable, mais on ne sait pas. Peut-être il y a des miracles dans la littérature. Alors, Quelle est la différence essentielle entre les langues? Elles sont l'expression d'une conscience collective qui varie en fonction de paramètres historiques, psychologiques, politiques. Chacune véhicule une autre image, une autre vision du monde, ou, comme on dit quelquefois même en français, une autre Weltanschauung. Il y a cette autre vision du monde. Et le linguiste von Humboldt, un Allemand, a dit « La dissemblance des langues n'est pas une question de son et de signes, c'est une disparité des conceptions du monde. » Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie gestatten, werde ich nun einige Sätze auf Deutsch sagen und komme dann beim Übersetzen auf das Französische. Nun, wenn ich mich sehe beim Übersetzen, bei der Arbeit, Wort um Wort, Zeile um Zeile, Seite um Seite, der Übersetzer, der arbeitet nächtlicherweise, so wie der Bauer, der auf seinen Acker pflügt, stundenlang, tagelang, nächtelang, er wendet Wortschulen, stockt, kehrt zwei- und dreimal auf die Spur zurück, und zwar ist er allein, allein wie der Mönch in der Klausel. Und doch, bei seiner Arbeit, spürt er bald Erdgeruch, bald rauen Wind, er stöhnt über Gestrüpp und Gestein, er kämpft und sinkt ermüdet nieder. Übersetzen ist tatsächlich eine harte Arbeit. Weshalb ich Literatur übersetze? Ich hatte beim Tagesanzeiger, wie gesagt, hatte ich die Chance, in die Westschweiz gehen zu können, als erstes Mitglied der Redaktion außerhalb des Bundeshauses und außerhalb Zürich in einem Teil der Schweiz. Und so konnte ich meine Jurapolitik weiter pflegen und konnte auch, sagen wir, weltweit vergleichen. Und da hatte ich habe tatsächlich häufiger abends um 9 Uhr angefangen mit Übersetzen und dann bis morgens 3 Uhr, 4 Uhr und am Vormittag irgendeinmal musste ich wieder anfangen mit dem Journalismus. Aber ich hatte einen gewissen Genuss dabei. Man kann sich auch entspannen. Man sieht sich auf einmal auf einer Wiese in den Bergen und da kommen die Wörter von allen Seiten wie Schmetterlinge und du musst sie fangen und aufpassen, dass sie nicht ihren Staub und ihre Farbe verlieren. Und du siehst sie, du wirst nach den Wurzeln der Wörter graben, du pflegst sie. Und du bist wieder Strahler, der Edelsteinsucher im unwirtlichen Fels, der nach Quarz, Kristall und Edelsteinen sucht. Und dann jubelst du innerlich über einen guten Fund. Du siehst auf alle diese Dinge, von denen ich bereits erzählt habe. Der Übersetzer ist l'interprète, Dolmetscher, Deuter, Darsteller. Er schlüpft in die Haut eines anderen. Habe ich beim Übersetzen den Grundton eines Werks erfasst, dann suche ich Eigenheiten, technische Schwierigkeiten, Knüppel und Knoten im Satzbau zu erkennen. Und zuletzt habe ich das Gefühl, ich sei wie ein Medium, durch das der Verfasser spricht in einer anderen Sprache. Aber ich muss es ja immer kontrollieren. Ich darf mir also nicht da meinen Ideen überlassen. Der Unterschied zwischen Französisch und Deutsch ist schon sehr groß, das wissen Sie alle. Französisch, da hat der Neuenburger Linguist Schüler jeweils gesagt, Französisch, c'est un patois qui a fait fortune. Es ist le patois de l'Île de France und dieser patois ist zur Sprache des Königshofs geworden und der König so wie der König sprach, das war eben die gute, schöne Art, die sich unterschied von der Sprache der Paysan, der Villain, eigentlich Wörter, die da ein bisschen, was wollen wir sagen, nicht sehr anerkennend gebraucht werden im Französischen. Madame de Stael, die schreibt in ihrem Buch De l'Allemagne über den Unterschied zwischen Französisch und Deutsch, um Napoleon ein bisschen zu ärgern, lobt sie die deutsche Sprache zum Teil mit falschen Argumenten. Sie sagt, auf Deutsch könne man nicht lügen. Das kann man natürlich schon mit jeder Sprache. Aber auf Französisch, da gibt es andere Möglichkeiten, nicht wahr? Die Leute, die Zeit haben zur Koketterie, die können das spielen. Könnten Sie, meine Dame, nicht wahr, wollen wir nicht einen kleinen Spaziergang? Oh nein, geht nicht. Und dann kann ich das Nein, kann ich umdeuten in einem Ja und alle diese Möglichkeiten. Bei Jacques Chesse habe ich eine bäuerische Sprache gefunden. Deutsch kommt von unten aus dem Volk, Französisch kommt von oben und dann in der Mitte, da begegnen sich die beiden Sprachen. Das sind ähnliche Möglichkeiten. Und Chesse, der hat im Portrait de Vaudois, das ist vielleicht da irgendwo, da ist Chesse, ja, wunderschön abgebildet. Portrait de Vaudois, lui, il emploie des mots du terroir. Et moi, j'ai pensé, quand on m'a demandé, j'étais parmi les premiers traducteurs de cette série, CH, et je me suis dit, comment est-ce qu'il faut refaire cette langue paysanne, vaudoise? Et alors, je me suis dit, là, c'est mon Bernois, ou le Bernois de Gotthelf, qui m'aidera. Et j'ai fait un peu une traduction à la Gotthelf. Et j'ai employé beaucoup de mots du terroir, du dialecte. Seutrenke, Rüschsuppe, Ferlimore, Seubrago, Metzgeten, Sichleten, Gräbt. Und wo Schisse den Berner Eroberer Hans Franz Nageli deutsch oder in einem Français fédéral radebrechen lässt, da verwende ich berndeutsche Sätze. Bei Schisse, hier, ja, bei Schisse, da heißt es, alles in Ordnung, c'est fini la superstition et les images. Leurs excellences font être contentes avec ce petit reprise en main. Et alors, je l'ai traduit. Oui.